RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story. C'est parti pour 3 heures de discussion, 3 heures de débat. On vous attend au 32-16, vous prenez la parole en direct. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
À tes côtés, l'avocate Sandrine Pégan. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Antoine Dier, ce consultant juridique. Bonjour Antoine.
Salut Alain et bonjour à tous.
Bruno Poncet, le cheminot, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Beaucoup de sujets de discussion aujourd'hui qui vont avoir trait notamment à la politique, les milliardaires qui s'engagent officiellement, Bolloré, Pigas, Sterrin, est-ce qu'ils peuvent influencer l'élection présidentielle? On en parlera dans les GG aujourd'hui. Le buzz de Mourad Boudjelal, notre éditeur de bande dessinée, en 3 déclarations d'impôts. Je me casse, ras-le-bol de payer autant, a dit Mourad Boudjelal. Ça a fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.
Et des appels à partout. Rester, reste.
Alors,
Mourad.
Alors, est-ce que Mourad a raison? On lui dit reste Mourad, ne t'en va pas. Ou au contraire, on lui dit Mourad, t'as raison, on n'en peut plus les impôts. Allez, t'as raison. Et peut-être que d'autres, comme Mourad, y pensent. Là aussi, ça fera un beau sujet de discussion avec vous au 32-16. D'abord, je vous propose qu'on revienne sur la découverte d'un corps hier. Une identification toujours en cours. La disparition de Liana. Et là, on pose la question grande gueule. Est-ce que l'État est responsable?
Dysfonctionnement de l'État, de la France. Je peux illustrer ça en vous parlant de la solitude des élus, simplement, qui... Vous savez, les maires, c'est le premier maillon de la chaîne. Les maires, c'est les gens. Et l'État, ce sont les personnes qui sont plus haut. Et ce sont les législateurs, ce sont l'ensemble des ministres, ce sont toutes les personnes qui nous administrent, qui nous gouvernent. Et à un moment donné, on ne peut plus se contenter d'avoir des réponses partielles, des réponses étouffées, parce que tel ou tel considère que ce n'est pas sa place de prendre la parole, parce qu'il pense qu'humainement, il ferait un faux pas. Eh bien écoutez, parce que humainement, je pense qu'il est de mon devoir de dire ces choses-là.
C'est le maire de Fleurance, la commune où a disparu Liana, que vous venez d'entendre, et il dit, nous, les élus, on a des responsabilités locales, on est tout le temps sur notre dos, mais là, ce qui se passe, c'est de la responsabilité de l'État. Il accuse, au regard des dysfonctionnements que l'on connaît maintenant depuis 3 jours.
Ah, c'est quand même une semaine terrible, c'est ce que je me disais, une semaine terrible pour ceux qui sont censés incarner dans ce pays l'ordre et l'autorité. Semaine qui a commencé par le désordre dans nos rues après la victoire de Paris Saint-Germain, et ça c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui pourtant nous expliquait que tout était sous contrôle, et semaine terrible également pour la justice, et ça c'est Gérald Darmanin qui l'incarne, le garde des Sceaux, lorsqu'on voit précisément ce qui s'est passé dans l'affaire Liana avec ses dysfonctionnements en série, puisque on sait aujourd'hui que le suspect numéro 1 qui est en prison était au cœur de 6 affaires. Mais il n'a jamais été véritablement inquiété. Et quand on parle d'affaires, on parle de plaintes pour viol sur enfants de moins de 15 ans. Alors le gouvernement dégaine, comme à chaque fois, les vieilles recettes. La réunion à Matignon, ce matin, Sébastien Lecornu a convoqué messieurs Nunez et Darmanin. Et puis l'enquête administrative, la fameuse enquête administrative, qui doit permettre, bien sûr,
de faire toute la lumière
sur les dysfonctionnements qui ont conduit à ce drame, qui ne peut pas se reproduire. Bref, tout ça, c'est terrible, parce qu'on pourrait en sourire, mais c'est un drame, parce qu'il y a une petite fille qui en est morte. Moi, sincèrement, on pourrait demander la démission Nunez et Darmanin cette semaine, ça me choquerait pas. Mais aussi, on pourrait quand même demander à ce gendarme, par exemple, de s'expliquer, ce fameux gendarme, quand la maman de Rosa, celle qui a porté plainte en août 2025, parce que sa petite fille a expliqué que cet homme en question l'avait violée, la maman de Rosa appelait toutes les semaines la gendarmerie pour savoir où en était son affaire, et le gendarme excédé lui a répondu, écoutez, si vous continuez, c'est moi qui vais porter plainte contre vous pour harcèlement. Mais ce gendarme, ça serait bien de le retrouver. Ça serait bien également de demander des explications au parquet de Toulouse, à ses procureurs qui ont tardé en se refilant le dossier, parce que qui doit être saisi, qui doit être déspécialisé. Ça dure des mois, ça, et qui finalement n'ont pas entendu suffisamment tôt cet homme qui aurait dû être en prison il y a bien longtemps.
Qu'est-ce que vous en pensez, effectivement? Est-ce que l'État est responsable? C'est au 32-16 que ça se passe. Antoine Dier, ça...
Je suis exactement dans le même état qu'Olivier.
j'ai été encore plus surpris par les propos de Gérald Darmanin, qui reconnaît des dysfonctionnements, mais il dit des dysfonctionnements qui sont révélateurs de notre mauvaise organisation. C'est le nôtre.
Oui.
Une mauvaise organisation. Ça reste léger. Et, encore une fois, personne ne se sent responsable. Dans notre pays, il n'y a rien qui fonctionne, mais personne n'est jamais responsable. C'est un dysfonctionnement, c'est notre mauvaise organisation, l'enquête, etc., tu l'as dit. Eh bien, moi je crois que rien ne changera dans notre pays, rien ne s'améliorera malgré les drames si nous n'exigeons pas des responsables politiques une responsabilité. Ils sont responsables politiques. Eh bien, ils doivent démissionner. Ils doivent sanctionner le cadre de la justice ou le juge. Oui, il va falloir sanctionner les juges un jour, ça doit être possible. Ils sont pas irresponsables, ils sont pas au-dessus
loin,
des lois.
Bah oui.
Et bien, si on ne bascule pas dans la logique de responsabilité, celui qui a fauté paye au sens pas financier, mais au sens où il est viré, etc. Eh bien, tant qu'on ne basculera pas là-dedans, on continuera à avoir ces mots de dysfonctionnement général. On ne sait pas quoi faire, mais on a des phrases, on lance des enquêtes, etc. Non, il est venu le temps des responsabilités, des démissions, des licenciements de tous ceux qui ne font pas le travail pour protéger les Français.
Maître Pégan.
Vous savez que je suis avocat pénaliste et je passe ma vie professionnelle à constater chaque jour les conséquences des défaillances de notre système. Alors oui, bien sûr que là, on en a marre, et les Français surtout n'en peuvent plus de constater après coup, parce qu'on est devenus les champions, hein, les champions des enquêtes après coup, des indignations après coup, des promesses après coup. Et on ne veut plus d'excuses, on cherche des responsabilités. Tu l'as dit, Antoine, sauf qu'à un moment donné, quand tu dis, tiens, il faudrait peut-être qu'on sanctionne le juge, là, pour l'instant, il n'y a même pas eu de magistrat qui a été désigné. Donc, tu vois, au niveau de la faille...
Il y a bien un parquet, là, si j'ai bien compris. Il se passe la balle entre deux parquets. Ouais. Personne n'avance, personne ne considère que cette affaire est urgente. Et donc, tu parles de défaillance d'un système. Pardon, non, c'est la défaillance dans le système, c'est des gens. Il y a des gens qui auraient dû se dire, en voyant
ça,
la feuille, mais
d'accord.
Cette petite,
ça, on ne
peut
mais
pas laisser
dis,
ça
tu,
comme ça.
Tu dis sanctionner le juge, tu parles de quel? Le juge qui, lui, va ordonner. Voilà, oui, parce que t'as les juges du siège, t'as les juges
Le parquet. Le parquet, là, où personne ne dit c'est une affaire urgente, il faut demander à la police d'aller tout de suite convoquer le bonhomme. C'est bien un procureur qui doit.
Non, mais là, on est dans une utopie, Antoine. Tu te doutes bien.
Une utopie, protéger les gens, c'est une
utopie. Je vous explique. Je vous explique juste.
Dans ce cas-là, qui démissionne, qui change de métier.
Je fais de la pédagogie. Bien évidemment qu'on est. J'aimerais que tout se passe dans une vitesse extraordinaire et surtout la protection de l'enfant.
Il y a des priorités.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qui se passe, c'est que là, on est dans une lourdeur bureaucratique. Il y a des frontières administratives qui empêchent justement cette homogénéité.
Tu sais quoi, j'ai déjà fini en garde à vue parce qu'ils ont appelé le procureur et qui a dit il faut le garder en garde à vue. Donc tu peux appeler le procureur et dire maintenant, tout de suite, vous mettez telle personne en garde à vue. Le procureur peut le faire. Là, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas le système, c'est une décision.
C'est pas le manque de moyens non plus.
Arrêtez de parler comme si vous étiez dans le système. Vous
mais
n'y êtes pas.
Je l'ai vécu.
Tu l'as vécu, d'accord.
J'ai été mis en garde à vue pour du collage d'affiches. Parce qu'ils ont appelé le procureur, qu'est-ce qu'il faut faire de ce monsieur? Vous allez le mettre en garde à vue toute la nuit. Et moi, ils m'ont gardé au commissariat.
Tu te doutes bien que la récolte des preuves à ton endroit, elle est beaucoup moindre que par rapport à une affaire.
En fait, on agit sur les affaires faciles.
Je ne suis pas en train d'excuser. Je vous explique juste, et c'est là aussi ma vertu pédagogique en tant qu'avocat pénaliste. Je vous explique comment ça se passe. C'est qu'à partir du moment où tu vas vouloir placer quelqu'un en garde à vue, ça dure 48 heures parce qu'on est, pas en matière de criminalité organisée. Il faut que t'aies des billes. Parce que si finalement, dans ton enquête, tu l'as bâclé et t'as pas d'éléments, oui, 48 heures.
En matière de pédophilie, il y avait des constats faits sur cette petite fille. Ça va assez vite. Hein. Je suis désolé, il ne faut pas 6 mois pour ça, pour constater s'il y a oui ou non abus sexuel. Donc l'idée, la procureure a avancé l'argument que tu avances en disant oui, non, la garde à vue, c'est en fin de parcours, c'est en fin de chaîne en fait.
Mais oui, mais c'est pas l'argument que j'avance.
En matière de pédophilie, en matière de pédophilie, ça peut pas être comme ça puisque on sait que en général les pédocriminels sont des récidivistes en puissance. Donc il y a urgence à l'arrêter, d'autant plus que et là, il pouvait consulter l'otage, parce que certes, il n'avait pas de casier judiciaire, mais il était forcément fiché otage, puisqu'il y avait eu plusieurs affaires autour de lui. Donc on pouvait se dire, tiens, c'est quand même bizarre, ce type-là apparaît souvent dans des plaintes pour viol, un profil à risque. À aucun moment, le procureur s'est dit, là, il y a quand même urgence à intervenir. Ah, c'est sûr qu'en ce moment, il y a urgence à placer des contrôles de vitesse sur les routes. Le narcotrafic est une priorité. Darmanin, d'ailleurs, l'a dit. Mais cette priorité,
terrorisme aussi.
Ce visiblement se fait au détriment des enfants. Voilà, c'est ça qu'on constate.
Alors, ben oui. Il est certain que c'est encore une enfant, c'est encore une famille qui est détruite et c'est encore un système qui a failli. En revanche, je vous dis que malheureusement, et on voit bien que c'est systémique, il y a des défaillances partout et on doit justement réorganiser notre système parce que par rapport au Royaume-Uni, on est mais complètement has-been. Eux, ils font de l'évaluation de profils à risque, ils font plein de choses. Sauf que je vous dis aussi une chose, c'est que lui, il a peut-être été malin, le Jérôme, c'est que quand il a commis un fait, et ben après, il a déménagé. Et du coup, ben comme c'est plus la
même juridiction,
parce que soit c'est en gendarmerie, soit c'est en police. Donc le temps qu'il y ait un soit transmis qui soit effectué pour adresser le dossier, etc. Voilà. Donc c'est ça.
L'otage, je disais, il est
les frontières administratives.
L'otage, il est national.
Après, je te parle pour enquêter, parce qu'à partir du moment où t'es saisi d'un dossier en tant qu'enquêteur, que tu sois gendarme ou que tu sois policier, il faut que tu sois saisi d'un dossier territorialement. Et c'est là où il y a le problème. Peut-être qu'il faut changer toute notre réorganisation. Mais je suis pas encore en train d'excuser ni de cautionner. Je dis juste que c'est la réalité du système et que en effet. On a constaté qu'il fallait le changer.
Bruno Poncé.
C'est cette histoire, et malheureusement, va certainement se finir par la mort d'une enfant, nous provoque une tristesse infinie, parce que, encore une fois, une enfant de 11 ans, 10 ans, et on en a malheureusement trop souvent entendu. Et puis derrière, tu as une colère. Mais la colère, elle est justifiée, mais en même temps, moi, je vois aussi une certaine inertie des gens d'être en colère à chaque fait divers. Sauf que le système judiciaire, le système public en général, les services publics en général sont dans une déliquescence extrême depuis 40-50 ans. La réforme Sarkozy sur la justice et la fusion de la police et la gendarmerie a encore un plus affaibli notre système, il faut se le dire aussi. Et puis là, on est en face aujourd'hui à un système qui est dans le risque calculé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la prévention, au lieu de quadriller ton territoire, au lieu de connaître ce qui se passe chez toi, et ensuite après de pouvoir savoir tout de suite qui fait quoi et quand il se passe un truc comme là, où les petites, elles ont été violées par cet homme, tout de suite aller voir la police et ensuite la justice pour que derrière ça s'enclenche, bah tu te retrouves face à des gens qui se retrouvent plus ou moins démunis parce qu'ils n'ont pas de moyens. Là, moi, je vois un truc, moi, je sais pas si ça vous interpelle pas, mais toutes les battues sont organisées avec des civils. Avec des gens comme toi et moi qui habiteraient là, on dit reviens faire.
D'ailleurs, beaucoup de gendarmes n'en veulent pas de ces battues.
Ben, moi, je te rappelle.
Qui paraît-il, ne sont pas très efficaces.
Je te rappelle qu'à mon époque, quand on était gamin, tu dois t'en rappeler, c'était que des policiers et des gendarmes qui faisaient le taf. Et surtout des gendarmes. Parce qu'ils étaient assez nombreux pour faire le boulot. Ouais. Aujourd'hui, ils sont tellement pas nombreux qu'on va demander aux civils. Donc, ton voisin, toi, tu connais la gamine, tu vas tomber sur son corps. Mais c'est quoi le truc? C'est pas ton métier. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là.
Surtout des battues avec des gens qui savent pas faire et qui animent les scènes.
Oui, là, tu marches sur des endroits. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, là. Rien à voir. Moi, je te le dis, franchement, avant, c'était pas comme ça.
Tu dis,
c'est un métier. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un système et au-delà de. Donc, la justice est là, mais tu es dans un système où tellement affaibli qu'en fait, aujourd'hui, on est juste en train d'essayer de mettre des pansements sur des problèmes.
Non, mais Bruno, je
sujets.
Suis d'accord, il y a les manques de moyens, on le dit régulièrement dans les grandes gueules. Il y a sans doute.
Il
n'y a pas assez de procureurs. Néanmoins, je pense qu'il y a une question de priorisation. Et pardon, mais protéger les enfants, c'est pas prioritaire dans notre pays.
On le dit de chaque semaine, Olivier.
Ce qui compte, c'est le narcotrafic, il y a plein de choses.
Ça marche
pas. Je suis désolé, on perquisitionne très rapidement l'homme politique aujourd'hui parce que on a créé un parquet national financier. Donc dès qu'il y a un truc, boum, ça y est,
en trois mois,
c'est fini. Il y a pas de parquet contre la pédophilie. Ça existe dans d'autres pays comme l'Espagne. Pourquoi on n'a pas créé un parquet contre la pédophilie?
Il faut s'en inspirer.
Donc c'est des questions de priorité. Bah oui, mais c'est des questions de priorité.
Et
donc il faudra pas que monsieur Darmanin ou Monsieur Le Cornu, à l'issue de la réunion, nous disent « Oui, vous comprenez, c'est un manque de moyens, mais depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons fait des efforts, etc. » Parce que je sens gros comme une maison. Mais non, ils vont
prendre mes responsabilités. Non, il a dit « Je prendrai mes responsabilités. »
Ah ben, il devrait démissionner, alors, s'il prenait ça.
Oui, parce qu'il fait
le
loi.
Qui fait le loi, vous
mais si tu veux, mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on va donner l'illusion. Et c'est ça, et c'est encore plus cynique et même honteux de la part des responsables politiques. Tu sais pourquoi? Parce que il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a une élection présidentielle qui va arriver. Donc, il n'y aura pas de réforme. Il n'y aura pas de prise de décision. Donc, il y aura simplement de la prise de parole. Et c'est là où, si tu veux,
et de l'esbrouf.
Le cynisme politique, il est honteux dans cette histoire. Tu comprends? Parce qu'à la limite, je vais te dire franchement, il ne devrait rien dire. Tu vois, rien.
Non, si. Obligé de rendre des comptes.
Il ne devrait rien dire parce que faire une réunion, sachant qu'il ne se passera rien derrière, que tu n'auras pas de réforme, comme le disait Olivier, tu n'auras pas la création d'un parquet, tu ne vas pas dire, tu ne vas nommer plus de procureurs, que tu vas mettre plus de gendarmes dans le Gers, tout ça. Il ne va rien se passer parce qu'il ne peut rien se passer.
En tout cas,
d'ici
dans l'année.
À la prochaine élection. Ben oui. Donc c'est encore pire de faire tout à l'heure après la réunion une prise de parole en disant nous avons bien conscience du drame. Non, ils vont commencer, je vais te dire. Tu sais par quoi ils vont commencer?
Nous diligentons une enquête administrative.
Non. Ils vont commencer en disant nos premières pensées vont d'abord à la famille de la victime. Voilà, voilà comment ça va commencer.
Avec des mines confites.
Et c'est ça qui est
terrible. Mais t'as raison de parler de cynisme. T'as raison de parler de cynisme, Alain, parce qu'il faut, enfin, moi, toutes les affaires de pédophilie qu'on voit en ce moment, et il y en a de plus en plus qui sortent. Et heureusement, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, les affaires vont sortir, vont pas être étouffées. Mais regarde, la mairie de Paris, c'est quand même pas compliqué. On a fait une campagne municipale où tout a été tu, où ça bruissait. Tout le monde en parlait. Oui, t'as vu, il y a ça, machin, t'as les familles qui arrivent un peu à la télé. Il est élu. Grégoire,
alors qu'il est au premier rang
du
dysfonctionnement.
Et ça sort derrière, en fait.
Moi, j'étais le premier à le dire, que je ne comprenais pas qu'Emmanuel Grégoire, qui était au cœur du système dans ce scandale, ait été élu. Et tout le monde disait, non, quand même, on en a plus fait sur les affaires judiciaires de Rachida Dati, on en a plus fait sur les affaires judiciaires de Rachida Dati que sur le scandale. Donc, ça montre bien que les enfants, on n'en a rien à foutre. En revanche, attention, si un homme politique avait pu un peu détourner de l'argent, etc., alors là, il faut tout de suite le mettre en taule. C'est les priorités.
À droite, tu tapes toujours l'homme politique de droite, jamais l'homme politique de gauche, pardon.
Je reviens
sur la question de la responsabilité des magistrats. Tant qu'on n'aura pas crevé ce tabou où on dit tel magistrat, tel procureur aurait dû, dans le cadre de son action, avoir telle décision à tel moment, convoquer le bonhomme, etc., il ne l'a pas fait. C'est une faute.
Alors c'est faux ce que tu dis parce que regarde, le procureur d'Auch avait diligenté des enquêtes, elles n'ont pas été effectuées. Donc sa responsabilité ne peut pas être mise en œuvre.
Pardon. Est-ce qu'on a le droit de mettre en cause un magistrat aujourd'hui dans notre pays?
Mais l'affaire Doutreau, il a quand même été mis en cause de magistrat.
Il a eu la sanction la plus faible qu'on peut donner à un magistrat.
Ah oui, mais à un moment donné, il faut bien commencer par
faire quelque chose. Il y a eu des violences sexuelles qui ont été commises et la parole des enfants, elle a été à un moment donné détournée. Donc, il ne faut pas oublier.
Mais on ne parle pas de ça, on parle de Burgot qui a été sanctionné dans un des scandales judiciaires les plus importants de notre histoire. Il a eu la sanction la plus faible. Donc, ils n'ont rien, les magistrats.
Les comptables publics sont responsables sur leurs deniers personnels. Les comptables publics, si il y a de l'argent qui disparaît, ils doivent le rembourser. Les magistrats, ils doivent être aussi sanctionnés s'ils ont pris une mauvaise décision.
Alors, dans un instant, on va donner la parole à Angélique, qui est du côté de la Loire. Angélique, qui est très en colère, elle nous dira elle aussi pourquoi la disparition de Liana. En attendant précisions qui sont données par l'autopsie, les questions qui se posent sur le dysfonctionnement de l'État, le maire de Florence qui accuse l'État, il dit oui, là, ce qui s'est passé... le choc, là, aujourd'hui, dans ma commune, c'est à cause de l'État. L'État responsable. Un fiasco sans précédent. 32-16 pour en parler avec les juges. Restez avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
On parle des dysfonctionnements de l'État après la découverte du corps d'un enfant hier dans une zone agricole, dans un silo à grains à Florence. Et tout laisse à penser, bien évidemment, que l'hypothèse la plus probable est que ce soit le corps de la petite Liana, même si on attend les confirmations de la part de l'autopsie. Dysfonctionnement de l'État, c'est aussi l'accusation du maire de Florence que vous avez entendu ce matin. Angélique, bonjour.
Bonjour, équipe.
Bonjour Angélique. Ça vous met en colère?
Oui, vraiment, ça me met en colère. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu un peu plus de 15 ans, j'ai mon fils et ma nièce qui ont failli être victimes d'un pédophile. Heureusement pour nous, ils ont réussi à s'échapper. J'étais dans le petit village où j'ai grandi, donc j'étais persuadée qu'il ne pouvait rien arriver. Ce monsieur, donc c'était tard le soir... Peut-être que c'est de ma faute, on n'aurait pas dû les laisser partir, mais on était sûr, enfin, on s'entend en sécurité dans ce petit village. Et le monsieur, le lendemain, s'est promené tranquillement au milieu du village et ma nièce l'a reconnu. Donc les gendarmes sont venus me chercher et quand le procureur a vu son dossier, ça faisait 3 semaines qu'il sortait de prison pour les mêmes faits. Quand le procureur a vu son dossier, il est passé en comparution immédiate.
Là, il y a eu une réaction.
Ouais, il y a eu une réaction. Donc, je pense que...
Et la condamnation, Angélique, elle était lourde ou il a eu quoi après?
Alors non, malheureusement. Et toutes les fois que j'entends ça, je me dis, ce monsieur, enfin, il est où et il fait quoi? Non, la condamnation, ça a été 1 an de prison ferme avec des obligations de soins.
Il a fait la prison, parce qu'un mandat en prison ferme, on n'en fait pas de la prison, c'est aménageable.
Il a eu un mandat de dépôt.
Il a été en mandat de dépôt.
Il a été en mandat de dépôt. Après, il y a eu...
Et en plus, la récidive a dû être retenue, c'est pour ça.
Oui, et quand il a été jugé, le juge, malheureusement, c'est quelqu'un qui avait été victime d'inceste, mais le juge lui a dit, la France entière n'est pas responsable de ça. Donc, quand on veut, on peut, je ne comprends pas. Ça me met dans une colère, mais noire. Parce que si le procureur avait fait son boulot, entre guillemets, eh ben cette pépette, elle serait encore là, quoi. Il n'y a pas de doute. Parce que tout le monde le sait que c'est elle.
La justice du Gers, on va nous raconter qu'elle n'a pas de moyens, etc. Et j'entendais sur une radio concurrente un syndicaliste, un agriculteur syndicaliste de la coordination rurale qui expliquait qu'il avait été convoqué 4 fois parce qu'il fait des posts Facebook sur les agriculteurs. Ce sont nous des posts un peu violents. Donc il avait été convoqué 4 fois par la justice. Donc on voit quand même que la justice du Gers fait des choix. Et elle n'a pas fait le choix de protéger cette petite fille.
Angélique, si vous le permettez, je voudrais qu'on écoute Pierrick qui est infirmier en psychiatrie. Bonjour Pierrick.
Bonjour,
bienvenue. On parle de dysfonctionnement de la justice. Vous, des cas de pervers, de malades sexuels, vous en voyez régulièrement?
Alors moi, dans mes unités, pas forcément, parce que je travaille pas dans des unités spécialisées là-dedans. Moi, je rencontre par contre beaucoup plus de victimes.
De victimes.
Parce que alors j'ai cette activité d'infirmier en psychiatrie et j'ai un cabinet en libéral aussi où je prends en charge beaucoup de victimes avec la thérapie de l'EMDR. Et là, par contre, je rencontre énormément de victimes. Et là, la confrontation à la justice pour ces victimes-là, c'est tout simplement un enfer. C'est un enfer, c'est-à-dire que entre le dépôt de plainte, souvent c'est la victime qui doit d'abord passer des expertises psychiatriques, psychologiques, médicales, qui sont auditionnées, réauditionnées. Enfin, c'est un enfer. Pendant ce temps-là, les agresseurs, comme disent beaucoup de victimes, les agresseurs, ils sont tranquilles chez eux en fait. Mmh. Et ça, c'est ce ressenti des victimes, il est horrible. Moi, mon épouse est victime aussi. Elle a été victime pendant l'enfance. Oui. Elle a déposé plainte plus de 30 ans après les faits. On est à 7 ans de procédure aujourd'hui. Ça a été classé une première fois sans suite. Les propos des juges d'instruction qui disent « Bon, vous comprenez, madame, les faits, c'est très ancien, hein, ça sert à rien d'aller plus loin. De toute façon, on n'ira pas plus loin. » Ma femme, ça fait 7 ans qu'elle se bat pour dire « Mon agresseur, aujourd'hui, il a 2 enfants. Il faudrait peut-être aller vérifier que ses enfants ne soient pas aussi victimes. Ce serait bête de l'apprendre dans 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Aujourd'hui, ses enfants n'ont toujours pas été auditionnés. Et la justice, ça reste lettre morte. On n'entend rien.
Oui, mais Pierrick, pardonnez-moi, je suis obligée d'intervenir parce que... Et c'est pas un reproche que je fais par rapport à votre compagne ou à votre épouse, mais c'est que libre les faits. Mettez-vous à la place de la justice, mettez-vous à la place des enquêteurs. Comment ils font pour recueillir les preuves, les éléments matériels, ne serait-ce que, vous voyez, c'est d'une complexité extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on ne fait que solliciter la libération de la parole au plus tôt, juste après les faits. Parce que donc là, 30 ans après, bien sûr qu'elle a de la colère, votre compagne, parce que ça fait 7 ans qu'elle est en procédure.
Flavie Flamand, 30 ans après, a raconté avoir été agressée sexuellement, 35 ans par Patrick Bruel, et on ouvre une enquête.
Oui, parce qu'il y avait.
Parce que c'est
Il y a eu aussi d'autres plaintes.
Et peut-être parce que c'est une personne connue.
Aussi, oui.
Et la maman de Rosa, en août 2025, elle n'est pas connue. Et je pense qu'il y a ça aussi. C'est que je pense que certains magistrats et que la justice aiment bien aussi être dans des affaires qui vont faire mousser, qui vont. Il y a un petit côté. La lumière attire la lumière.
Oui,
et je pense que quand toi, tu es une simple victime lambda et que tu arrives dans une gendarmerie et que tu portes plainte, tu n'es pas traité de la même
façon. Allez-y, Pierrick.
Pardon, Pierrick.
Oui. Alors, je comprends très bien. Les faits, après 30 ans, on n'avait pas trop d'illusions là-dessus. Ça, c'est clair. Mais mon épouse, ce qu'elle demande, c'est qu'on vérifie que ses enfants ne soient pas victimes. Ça, c'est une chose. Mmh. Et quand vous parlez d'une justice un peu suivant si on est connu ou pas connu, nous, on a été invités à l'ouverture des états généraux de la justice il y a quelques années. Là, je crois que c'était en 2020 ou 2021. On a rencontré donc Monsieur Macron. À l'époque, c'était Monsieur Dupond-Moretti. La plainte de mon épouse venait juste d'être classée. Juste classé à ce moment-là. Mon épouse l'a dit à ce moment-là. Elle dit, maintenant, ça va être le calvaire pour récupérer le dossier pour voir ce qui a été fait et pour ce que se constituait partie civile. Bizarrement, quand on dit ça devant un président, des ministres, notre avocate, le lendemain, elle avait le dossier complet sur son bureau.
Voilà.
Ça, c'est non, mais ça
c'est QFD.
Non, mais vous y voyez une coïncidence, mais moi, à chaque fois. Mais pardon, mais vous prenez un avocat, l'avocat, il sait très bien à qui s'adresser, il fait des demandes, il a la copie du dossier, il l'a peut-être pas dans l'instant, il est peut-être obligé de relancer fois, deux fois, trois fois, parce que ça dépend si ça a été archivé ou non.
Finissez, Pierrick, pardon.
Surtout que ce n'était pas dans la même juridiction.
Ben voilà.
Nous, on est sur Poitiers, c'était parti au tribunal de Toulouse ou deux fois, je ne sais plus, parce que là, c'est actuellement à Toulouse. Voilà, notre avocat disait déjà, quand on est sur Poitiers même, ça peut être déjà galère et long pour avoir le dossier. Alors là, c'était dans une autre région,
d'accord.
Elle dit ça risque d'être vraiment très long et bizarrement, le lendemain, on avait le dossier.
Antoine, je vais aller dans votre sens, Pierrick. Alors moi, sur une affaire qui est très loin de la gravité de ce qu'on évoque, mais j'étais responsable syndical étudiant, je me fais péter la gueule par un gauchiste sur une fac parisienne. Il y a des images, il y a des témoins, etc. L'affaire a pris 7 ans pour être jugée. Donc les faits sont hyper clairs, tu vois. Mon agresseur, on l'identifie, il est emmené au commissariat et il sort alors que moi j'arrive pour déposer ma plainte. Il est libéré immédiatement.
C'est toi qui le mets en cause, c'est toi qui l'identifie.
Oui.
Oui, d'accord, mais c'est pas, tu n'as pas parole d'évangile.
Mais non, mais il y avait tous les témoins, enfin pardon. Et il a fallu 7 ans et plusieurs avocats amis qui se sont relayés sur cette affaire pour la relancer, alors qu'elle est hyper simple et claire. Et ça s'est terminé par une composition pénale parce qu'ils ont jugé que les faits étaient trop anciens et qu'il n'était pas nécessaire de casser la vie de ce brave monsieur 7 ans après. Pardon, mais la justice, telle que je l'ai vécue à plusieurs moments de ma vie, elle est défaillante sur tout. Et heureusement que moi, c'était pas des choses graves.
Et donc toi, tu as voulu alors que 7 ans après, l'individu qui malheureusement t'a agressé, donc part en prison alors que peut-être 7 ans. Compris ce qu'il en était,
oui, mais
qu'il
avait changé sa vie. Tout de suite, alors.
C'est trop facile.
Non, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas aussi tous les éléments matériels et autres pour pouvoir assurer.
Éléments matériels, parlons-en. Les éléments matériels, il y a des vidéos, etc., données au commissariat, qui disparaissent du dossier. Ah, nouveau dysfonctionnement, ça disparaît encore. On est obligé de renommer tout
le monde.
C'est du vécu.
Mais Sandrine, elle est en train de défendre des trucs indéfendables. Je sais pas pourquoi
je dis ça.
Mais non, mais parce que j'en ai marre d'entendre à chaque fois les critiques sur ça. Mais venez avec nous,
on compare les choses. Mais pardon, mais on a tous
vous venez au tribunal judiciaire de Paris, à la salle 6.01, je t'assure qu'on n'est pas du tout laxiste.
Comment tu. Parce que quand on te donne des cas concrets, à chaque fois, tu dis que c'est fantastique.
C'est
pas parce que le dit.
Parce qu'il
est tombé dans le sol.
Mais oui.
C'est pas parce que tu as dit. Je te donne tout le dossier si tu veux.
Non mais
7 ans.
Et là, pardon, Kylianna, c'est pas.
Je comprends pas pourquoi toi, l'avocate, tu défends le système.
Je défends pas le système. Je vous explique comment ça se passe. C'est pas la même chose. Et je le disais déjà en propos.
Pardon, mais moi, tous les avocats que je connais, me confirme
que ça marche pas.
Qu'on marche sur la tête, que le système ne fonctionne pas.
Et je vous ai dit que justement, je constatais au quotidien les conséquences des défaillances du système.
Tu les vois à la télé,
Non, surtout les dossiers de divorce, sur des dossiers très concrets de la vie quotidienne des gens.
Et c'est pas une question de moyens.
La justice ne fonctionne pas dans le système.
Je voudrais que Jean-François réagisse. Bonjour Jean-François.
Beaucoup de bureaucratie.
Oui, bonjour
Jean-François, très franchement, est-ce que vous attendez quelque chose des réunions qui vont avoir lieu à l'hôtel Matignon autour du Premier ministre avec le garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur ou pas?
Alors, en premier lieu, je voudrais vous dire que je suis très ému et très en colère par ce qui s'est passé, par toute cette histoire. Le truc qui va se poser, alors je vais modérer mes propos, le truc qui va se poser, c'est que nos grands dirigeants, il va falloir qu'ils percutent, parce qu'ils sont dans leur monde de bisounours. Parce que toutes ces affaires, il y en a ras-le-bol. Moi, je suis père d'un enfant de 7 ans. Quand je vois ce qui se passe à chaque fois, vous savez ce qui va se passer à force. Les gens en ont marre. Donc si le système ne bouge pas, si le système ne change pas, je ne critique pas les avocats et tout, attention, je suis pas là pour les juger, loin de là.
Merci.
Mais ce qui va se passer, moi, si ça m'arrivait, je vous garantis que la justice et tout le gouvernement a intérêt de protéger l'agresseur de mon fils. Parce que sinon, je ferai justice moi-même. C'est ça ce qui va se passer à force. Il y en a marre. Donc c'est pas les avocats, c'est pas les procureurs, c'est pas tout ça. C'est encore plus haut. Il va falloir qu'ils se bougent, notre gouvernement. C'est à eux. Vous croyez qu'un procureur est décisionnaire de tout? Mais non. C'est encore plus haut. Donc, monsieur Darmanin, monsieur tout ça, bougez-vous, parce que ce qui va se passer, c'est qu'un innocent comme moi, si ça arrive à mon fils, mais c'est moi qui vais finir en tôle, en fait. C'est moi qui finira en tôle.
Et pour aller dans votre sens, Jean-François, la justice est censée être rendue au nom du peuple français. Quand le peuple français, au nom duquel on rend la justice, dit que rien ne va, ça aurait dû faire sonner le signal d'alarme depuis longtemps.
Oui, mais à croire que non, à croire que nos grands dirigeants, je vous dis, ils sont déphasés. Quoi. Mmh. Ils sont déphasés. Ils vivent dans leur monde, quoi.
Et avec
le problème, c'est que notre monde, ça va, à force, ça va bouger.
Avec ce sentiment de deux vitesses aussi, voilà, on le disait tout à l'heure. Selon qui on est, on va être protégé ou on ne va pas l'être. La justice va bien nous traiter ou ne va pas bien nous traiter.
Vous croyez, regardez-moi, 49 ans, alors j'ai mon gamin de 7 ans, ça fait plusieurs jours qu'on entend ce drame. J'ai la larme à l'œil à chaque fois.
Bah, évidemment.
J'en chiale. Cette pauvre gamine, et c'est pas elle, je suppose que c'est elle. Ça sera confirmé. Oui. Mais oui. Celle avant qui a été violée.
Bah oui.
Toute sa vie, elle va avoir ça.
Il y a des gens qui doivent être responsables.
Non mais Jean-François, bien évidemment que la France entière est meurtrie. Ouais. La France entière est meurtrie, mais vous pouvez pas demander à Darmanin d'être derrière chaque procédure, chaque enquête qui est ouverte.
C'est quand même le ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui impulse une politique pénale
et qui
décide les priorités. Visiblement, ça c'est pas une priorité.
Non, c'est surtout,
et donc c'est là où effectivement on peut lui demander des comptes.
Ça fait des années surtout que chaque ministre, chaque membre en public communique sur chaque fait divers. C'est-à-dire que chaque fait divers, on va faire ci, on va faire ça, ils font jamais rien. Donc après, moi je comprends ce que tu dis, mais après tu peux pas leur dire non mais c'est pas lui qui fait ça, mais alors qu'ils ferment leur gueule en fait, qu'ils fassent le taf et qu'ils arrêtent de communiquer. Chaque fois qu'il y a une gamine qui meurt, Dieu c'est grave, on va faire une réunion. Non, fais pas ça. Remets des policiers, remets des gendarmes, remets un petit peu la peur du policier partout. Il y a plein de pays européens où moi j'étais, où à un moment donné, ne serait-ce que sur la casse après le PSG, moi je suis désolé. Hein, quand tu vas à Madrid, t'as pas envie d'aller faire le con dans la rue de Madrid. Hein. Tu vois des flics avec des chevaux toute la journée. T'es dans Paris pour voir des flics, c'est très très compliqué d'en voir dans la journée. Hein. C'est tout la peur
bien
du gendarme.
Que c'est pas les casseurs, c'est pas Laurent Nunez qui est responsable de la casse dans Paris. Ce sont les casseurs, les premiers responsables. Comme là, le premier responsable, c'est cet homme de 41 ans. Néanmoins, Laurent Nunez ne peut pas nous dire au lendemain de la casse, finalement, globalement, c'est positif. Et vous savez que le maintien de l'ordre, on en est très fiers et tout le monde l'envie.
T'as un mort après
Il est pas coupable, il est responsable. En fait, quand je t'écoute, Sandrine Pégan, tu me fais penser à Georgina Dufoy au moment de l'affaire du sang contaminé qui disait que elle était finalement ni responsable ni
c'est
coupable.
C'est pas un compliment, hein,
il y a forcément quelqu'un de coupable et de responsable.
Non, et puis c'est précisément le rôle des élus, des politiques, d'aller secouer les administrations, d'aller changer les textes,
de faire que ça fonctionne. Mais vous êtes gentil,
j'ai travaillé pour des élus locaux, des maires, etc. Ils allaient dans les bureaux des directeurs dire ça c'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça.
Est-ce que les Français votent pour un programme aujourd'hui? Est-ce que les gens ont lu le programme? Est-ce que les gens ont dire que le programme justice de LFI, le programme justice du RN, ils l'ont lu? Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien les entendre tous chouiner, mais à un moment donné, si dans le programme du candidat pour lequel tu votes, t'as pas regardé ce qu'il fait pour la justice et que par exemple il va pas te faire un parquet spécial pédophile, un machin et tout, bah à un moment donné, vote pas pour lui.
Bah ça sera, bah là il y a une campagne présidentielle qui démarre,
d'ailleurs tous les élus politiques là sur l'échiquier, il y en a aucun qui a fait de son programme, ou en tout cas même en parler sur les plateaux, on en a reçu plein, il y en a aucun qui a dit que ma priorité ça serait la protection de l'enfance.
Pour l'instant, ils vont peut-être le dire, parce que vu que c'est dans l'air du temps.
Ouais. Mais Emmanuel Macron, il se fait élire en 2017 en promettant de construire des places de prison qu'il n'a pas construit. Bah, je suis désolé, on a le droit 10 ans après de lui dire, monsieur Macron, où sont les places de prison? En fait, on ne rend pas la justice, on gère le parc immobilier.
Exactement. Alors, il y a des gens qui sont
pas derrière les barreaux parce qu'il n'y a pas de place.
Alors, Macron, là, encore une fois, pardon, mais je suis obligée de vous expliquer ce qu'il en a été. C'est parce que sur les chantiers qui étaient prévus, c'était sur des emplacements publics. Et donc, du coup, les voisins et les riverains ont fait des procédures. Et Gérald Darmanin, depuis qu'il est en poste, il a réussi un petit peu à récupérer les biens de l'État. Et c'est la raison pour laquelle il y a des prisons qui sont en train d'être construites et qui vont sortir dans pas longtemps.
À la fin des deux quinquennats d'Emmanuel Macron.
Il aura fallu 10 ans.
Bah oui, mais ça, le problème, c'est qu'on fait les promesses.
Mais donc, quand on veut, on peut.
Attention à la surenchère politique, là, parce que je voyais Marine Le Pen qui, à trois quarts d'heure, a dit « Des millions de Français partagent la douleur de la famille de Liana. » Indicible chagrin, on a appris qu'elle aurait pu, ça aurait pu être évité. La sécurité de nos enfants doit vraiment redevenir la priorité.
Bon, après, c'est assez sobre. Hein.
Non, mais c'est pas ça, c'est que je veux dire, derrière, dans les programmes, tu vas avoir droit à la surenchère sur nous ferons ci, nous ferons ça. faut se méfier.
Mais en même temps, on demande
un rôle de protection.
Pardon,
le politique doit protéger les gens.
Désolé, mais les missions régaliennes, c'est les priorités.
De faire des lois.
C'est la première mission, c'est protéger les gens. Justice, armée et police. Le reste, enfin, on pourrait discuter. Ça pourrait être géré par d'autres personnes et peut-être du privé. Mais ça, c'est une mission régalienne. Si sur ça, on peut pas leur demander des comptes, on demande sur rien.
Exactement.
Est-ce que l'État est responsable pour vous? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. On va regarder ce que vous en pensez. Vous dites oui à 98%. Dans un instant, le porte-parole du ministère de la Justice vient à l'instant de nous dire qu'il sera sur le plateau des GG, des grandes gueules, voilà, tout à l'heure.
Intéressant.
Sacha Stropkan, il sera avec nous tout à l'heure à 11h pour répondre aux questions des GG, des grandes gueules, porte-parole du ministère de la Justice. 10h-20, dans un instant, le on s'en fout pas.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. L'avocate Sandrine Tégan et des nôtres, tout comme Bruno Poncet, le cheminot, et Antoine Dier, ce consultant juridique. 10h-15, donc c'est le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Vers la fin d'une icône, les dernières représentations de Patrick Bruel annulées à Paris. La carrière de l'artiste visée par plusieurs enquêtes pour violences sexuelles est mise sur pause. Après plusieurs manifestations féministes ces derniers jours, c'est le théâtre Édouard VII où il est à l'affiche en ce moment qui a annoncé hier l'annulation des 5 dernières représentations. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sandrine?
On ne s'en fout absolument pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout.
Antoine?
On s'en fout pas.
Sandrine?
Je ne supporte plus cette justice parallèle qui est en train depuis des années de se créer. Je refuse une société, je vous le dis clairement, où une sanction dépend du niveau de pression médiatique plutôt que du niveau de preuve. En fait, il y a...
Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
À savoir. Commence pas.
Non, vas-y, vas-y.
Et je veux dire, à quel moment il y a une poignée de militants qui décident de faire une justice et d'exécuter socialement des gens, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Et je veux dire, là, avec eux, avec ce militantisme-là que je déplore, qui est annexé à mon sens, il y a une espèce de justice sans enquête, il y a une justice sans défense, il y a une justice sans contradictoire et encore moins sans peine.
On fait que dire qu'il faut écouter les victimes.
Écoutez les victimes, d'accord, mais ne pas non plus abonder dans leur sens. Elles n'ont pas forcément parole d'évangile. Oui, il faut qu'il y ait une enquête. Je vais juste vous dire une chose.
Elles ne sont pas victimes, elles sont accusatrices. Elles sont victimes si la justice le reconnaît.
Voilà, c'est ça. Sinon, elles sont plaignantes. Franchement, je vous dis juste ça et je serai très brève. J'ai reçu une décision hier et j'en suis pas peu fière. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans que je me battais pour un artiste qui est relativement connu et j'ai eu de la chance que finalement son nom ne soit pas sorti. Il était poursuivi pour viol. En tout cas, il y a une plaignante qui, depuis 2015, avait déposé plainte pour viol contre lui, procédure sur procédure, qu'il y a eu un classement sans suite, elle a fait une constitution de partie civile, il y a eu une instruction qui a été ouverte, il a été mis en examen, heureusement pas de détention provisoire, 5 ans d'enquête et finalement il a été renvoyé devant la cour criminelle départementale, j'ai fait appel et ils ont estimé que j'avais raison et ça a été infirmé. Tout ça pour dire que si ça avait été publié, ne serait-ce que dans un article de presse, une petite dépêche, il aurait été mort. Alors que finalement ils ont, la justice a estimé que quoi? Qu'il n'y avait pas de...
Je vais juste te dire un truc, excuse-moi, moi, j'entends ce que tu dis, et t'as peut-être pas tort, mais il y a un sujet. Bruel, ça fait quand même 2 ans au moins qu'il y a des histoires qui sortent, avec dont l'histoire de la masseuse en Thalasso et tout. Il n'a pas encore été convoqué au commissariat. Donc, moi, je dis un truc.
Il a déjà fait des gardes à vue, hein.
Là, les dernières histoires. Donc, il y a 2 solutions. Bruel est innocent, et en fait, la justice, par sa lenteur, en train de plier sa carrière. On est d'accord. Bruel est coupable, il a toujours pas été entendu par un commissariat, ni par un juge.
Elle avait été classée, c'était...
Oui, mais là, les dernières histoires, tous les témoignages qui tombent un par un et que tu te sens, et en plus, aujourd'hui, alors ce qui est le plus beau quand même, c'est que tous les médias et tous ceux qui ont travaillé avec lui t'expliquent, non, mais c'est vrai qu'on laissait pas les gonzesses travailler avec lui. Non, mais c'est pas sérieux, en fait. En fait, ça veut dire que toi, dans ton propre travail, tu sais que lui, c'est un prédateur, mais comme c'est Bruel, avec l'engin qu'il a, ils vont dire, non, stop, arrêtez tout ça. Moi, je veux dire, franchement, là, tous ceux qui sortent pour dire, non, mais on le savait, mais on a rien dit, allez tous vous faire foutre, en fait. Parce que vous avez laissé les gonzesses se faire malmener parce que vous n'avez jamais eu le courage de le dire en face. Bah, bravo.
On enchaîne.
Les GG, point relais débordé, trafic routier impacté, la région parisienne croule sous les colis. Quelques chiffres, 315 millions de colis distribués en Île-de-France l'année dernière, soit une moyenne de 17 paquets par habitant. Phénomène tel qu'une voiture sur cinq qui circule sur les routes franciliennes est un livreur. On s'en fout ou pas ? Sandrine ? Pas. Bruno ?
Non, on s'en fout pas.
Antoine ?
On s'en fout pas.
Antoine ?
Alors, il y a certaines plateformes de livraison qui défendent l'idée que la livraison serait écologique parce que chacun a commandé au lieu de se rendre lui-même au magasin chercher le truc
dans la et même il y a une seule
tournée pour livrer tout le monde. Donc j'imagine que ce chiffre devrait plutôt être bon. On devrait considérer que c'est une bonne chose qu'on limite le nombre de déplacements des gens qui iraient dans un magasin. Après, 17 colis, moi, ça me paraît pas si fou. 17 colis par an, ça me paraît même, c'est un peu plus d'un colis par mois.
Chiffre de l'Institut Paris Région.
J'ai plus que ça. Moi, je commande tout à distance parce que je déteste aller dans les magasins.
Combien de colis par mois chez Dier?
Je sais pas, il y a au moins 4-5 colis, je pense.
Ah oui, toi, tu fais pas de courses dans les commerces physiques, quoi, en fait.
Ah ouais, j'aime pas du tout.
Amazon?
Non, mais ça, tous les trucs possibles, je vais les commander.
Peut-être pas les commerces de proximité, mais la France d'avant avec des trucs. Par contre, ça commande partout. Moi, je suis à trois colis en 10 ans, peut-être. Tout cas,
trois colis en 10 ans.
Mais moi, j'achète pas en fait. Moi, j'ai la chance d'habiter à côté de Paris. Moi, quand je veux un truc, je vais dans Paris, je cherche partout.
Par exemple, quand tu t'achètes une paire de baskets, tu la commandes pas. Tu vas dans une boutique.
Mais pourquoi je commanderais dans les magasins?
Et si elle n'existe pas en boutique?
Ben alors là, c'est le cas extrême. Et comme maintenant, j'ai vachement nourri sur la basket. Moi, mes dernières baskets, j'achète dans une petite boutique à Toulouse.
Et toi, tu le fais aussi parce que tu veux défendre les commerces.
Mais oui, mais parce que moi, j'en ai marre d'entendre ces gens qui te parlent de la France. Moi, la France d'avant, jamais mon petit boucher, mon petit boulanger. Par contre, mes livres, je les achète chez Amazon parce que c'est vachement mieux.
Tu ne fais pas livrer ta baguette et il n'y a plus de petits libraires. Pardon.
Ah, bah,
je
vois,
dans Paris,
parisien, ce que vous dites.
Peut-être chez toi.
Même à Vierzoz, ouvert une librairie il n'y a pas longtemps. T'as qu'à voir.
Ok. Bah, s'il y avait un petit libraire.
Moi, le jour qu'on m'a dit que mon bouquin est sorti,
elle a fermé quand?
Non, elle est encore ouverte. C'est toi, Alain Marchal.
Elle a ouvert mardi.
La prochaine fois que tu vas, méfie-toi. La prochaine fois que tu vas sur le quai de la gare Vierzon, goudron et plume. Direct.
Non, mais c'est quand même sympa aussi de faire de la proximité avec le commerçant,
ça,
avec l'artisan et tout.
On peut pas arrêter.
Jamais.
Jamais. Alors, je peux paraître diva, je peux paraître princesse, mais à part me faire livrer mon repas parce que j'ai pas le temps, je termine trop tard. Sinon, tout le reste, je vais l'acheter. Je me déplace, j'adore aller en librairie. Je me dis, tiens, je vais acheter tel livre. Et puis, en fait, une fois que je suis sur place.
Ah, vraiment.
Parce que j'aime bien contact avec l'humain. Moi
j'ai acheté deux bouteilles de vin le week-end dernier pour mes potes. J'ai parlé une demi-heure avec les mecs. Moi je bois plus.
Tu sais, il va arriver Bruno. Attends, il y a le relou qui va encore nous parler.
Moi j'ai encore
parlé.
Ils sont contents.
Mais pour tout ce qui est bouche, bien sûr. Mais il y a plein de trucs que tu trouves même plus. Tu veux commander une horloge. J'ai acheté récemment une horloge. Il n'y a pas de magasin d'horloge à pied chez moi.
C'est vrai, il n'a pas de.
Il faudrait que je prenne ma voiture pour aller dans un truc de périphérie acheter une horloge. Parce qu'elle ne marchait plus, l'horloge de la cuisine.
Mais t'as un iPhone?
J'aime bien avoir une horloge pour voir le chef. Vraiment, j'aurais pris ma voiture pour aller chez un Jiffy, chez un truc en périphérie de Dunkerque. Bah là, je me la suis livrée. J'ai économisé du
CO2. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, un homme, il s'appelle Anis. Il a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'il est monté sur une statue de Jeanne d'Arc. Il a insulté la France. Il va venir s'expliquer dans les grandes gueules.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.